Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour Fabrice Madouas.
Bonjour Benoît.
Vous êtes donc secrétaire général de la rédaction du magazine France Catholique, qui paraît donc tous les vendredis.
Tous les vendredis, absolument. C'est un hebdomadaire, voilà. Sur abonnement essentiellement.
Un hebdomadaire vénérable, puisqu'il a fêté, et nous en avions discuté ensemble, son 100e anniversaire en 2024.
En 2024.
Voilà. D'ailleurs, je me posais la question, parce qu'il y a un beau numéro anniversaire qui était paru alors, et je vois 101e année.
Oui, alors, le décompte, c'est toujours la question.
C'est peut-être parce qu'il était daté du 8 novembre 2024 et que l'anniversaire a été fêté juste après.
Voilà,
sa date de fondation.
C'est ça, exactement. Après, il y a toujours petite ambiguïté sur le calcul entre les intervalles ou pas, mais voilà. Ça... Donc désormais, c'est la 102e année, et on peut rappeler donc, que c'était un magazine qui a été fondé par le général de Castelnau, celui qu'on a appelé en fait le maréchal oublié, qui a joué en fait un rôle primordial pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans la défense de Verdun. Et comme il était heureusement pour lui, mais malheureusement pour sa carrière, un peu trop catholique, il a été jugé un peu trop catholique, et il n'a pas fait partie en fait de la promotion de maréchaux qui avait été donnée en fait après la Première Guerre mondiale. Quoi. Mais il aurait mérité de l'être, bien évidemment.
Oui, il a été un peu bloqué dans la reconnaissance de la nation.
Exactement. Je pense que ce n'était pas tout à fait un ami de Clémenceau.
Alors, le thème de l'émission est effectivement christianisme et politique. Et on peut dire que c'est un peu le cœur de ce que constitue véritablement votre magazine.
Oui, c'est un magazine, effectivement. C'est un magazine
qui incarne, je dirais, la foi,
oui.
La foi chrétienne.
Oui, c'est ça.
Dans l'analyse de l'actualité, mais aussi dans la chose politique.
Mais exactement, en fait, la foi chrétienne est une foi incarnée. Hein, cette incarnation est primordiale au sein en fait de notre foi, et c'est la raison pour laquelle c'est un magazine de formation sur la foi chrétienne, bien évidemment, mais également nous nous interrogeons sur la traduction dans le domaine social de ce que l'on peut appeler en fait la doctrine sociale de l'Église, en tout cas des principes enseignés par l'Église.
C'est un magazine d'inculturation.
Voilà, c'est ça, on peut le dire. Il faut que ce soit un magazine lu, j'allais dire, avec en prenant le temps laisser infuser en soi à la fois les articles et puis, dans la mesure du possible, la parole de Dieu.
Votre leitmotiv, donner des racines au futur.
Donner des racines au futur.
C'est une ambition.
Des racines et des ailes. Mais en fait, on sent bien qu'il y a une nécessité de formation. Et d'ailleurs, c'est une demande de beaucoup de jeunes. Hein. On peut se satisfaire de l'augmentation des baptêmes d'adultes. Même si les baptêmes d'enfants en fait diminuent, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une appétence pour tous ceux qui réfléchissent et tous ceux qui veulent s'engager en fait dans la vie de la cité à retrouver leurs racines. Donc voilà, donner des racines au futur, former les jeunes, c'est un peu notre vocation aussi, tout en continuant à nourrir évidemment la foi et la réflexion de ceux qui sont enracinés dedans depuis des générations.
Alors parlons justement de la manière dont se décompose votre magazine. Parce que puisse donner des racines au futur, réfléchir, on suppose effectivement d'avoir toujours un article de réflexion. Et vous le placez en général dans la rubrique esprit.
Oui, alors dans la rubrique esprit, il y a une rubrique consacrée à l'art chrétien, qui est une lecture chrétienne en fait d'une œuvre d'art. Mais il y a également une rubrique apologétique, qui est une rubrique très appréciée de nos lecteurs. Hein. L'apologétique, c'est la science de.
Celui de, par exemple, le numéro qui est paru, donc qui est encore en vigueur cette semaine.
Voilà, c'est le dernier numéro.
Et qui s'intitule Tuer en haine de la foi et martyr de la Vendée. Entretien avec Philippe de Villiers comporte donc cette apologétique et le thème en est « L'homme est-il le fruit du hasard ?» Et la semaine prochaine, le thème en sera « Immigration et esprit de l'Évangile ».
Voilà,
et esprit vous êtes très audacieux dans vos thématiques.
Voilà, mais nous n'hésitons pas effectivement à prendre à bras le corps les questions d'actualité. Mais effectivement, « L'homme est-il le fruit du hasard ?» On est en fait quand même sur une réflexion qui est... profonde et de toute éternité. Sur l'immigration, on est sur des questions un petit peu plus actuelles. Voilà, et donc on a un panel donc, de rédacteurs.
Avec de la Guillot, philosophie.
Voilà.
Et éventuellement, tout simplement, du magistère, parce que l'immigration, le magistère, c'est à très nombreuses reprises.
C'est vrai que dans le prochain, on entend souvent en fait évoquer l'esprit de l'Évangile pour justifier un accueil inconditionnel en fait des migrants. Bon, voilà, Renaud Archier en fait qui a rédigé cette chronique-là recadre le sujet en disant que effectivement l'Église pose des principes généraux, mais ça n'est pas un programme politique non plus.
Non.
Et il faut se garder en fait de vouloir instrumentaliser l'Évangile sur des questions qui sont éminemment fragiles et en fait qui mettent en cause l'équilibre même d'une société.
Et d'ailleurs qu'on pourrait résumer l'enseignement de l'Église en disant que la charité bien ordonnée commence par soi-même.
Oui, et qu'en tout cas, même si individuellement, évidemment, il est tout à fait louable d'accueillir en fait les personnes vulnérables, pauvres, etc. Nul chrétien en fait ne peut imposer ce qu'il peut faire à l'ensemble de la société. On ne va pas non plus convertir.
Et ça s'applique d'abord au prochain avant de s'appliquer au lointain.
Voilà.
Il y a une forme de subsidiarité.
Il y a une forme de subsidiarité
sociale.
De proximité. Ouais. Voilà, c'est une réflexion en fait que l'on conduit depuis plusieurs années déjà aussi.
Alors je disais que votre magazine, d'une manière très équilibrée, abordait une question d'actualité et ensuite une rubrique grand angle. Alors parlez-nous un petit peu de cette rubrique grand angle, car il se trouve que ces deux numéros de France catholique, dont le premier donc, s'applique à la guerre de Vendée, et le second s'intitule « Une boussole pour la politique, la doctrine sociale de l'Église », forment une espèce de complémentarité évidente pour aborder la question de justement ces questions sociales et ces questions de charité politique, et on pourrait même dire de lutte pour les grands principes.
Voilà, non mais vous rappeliez en fait que notre... mot d'ordre, en quelque sorte, c'est donner des racines au futur. Et ces racines-là, évidemment, plongent dans l'histoire. Et donc, le numéro qui est encore le numéro de cette semaine est consacré à l'histoire, justement, et à la répression aux martyrs, en fait, des guerres de Vendée, et à la répression, en fait, de tous ceux qui ont pris les armes contre la République à cette époque-là. Et puis, nous prolongeons, en fait, en quelque sorte, cette réflexion cette semaine avec une boussole pour les politiques, en tout cas un numéro sur la doctrine sociale de l'Église. Et en quelque sorte, on peut faire le pont, en effet, entre les deux.
Dont on va dire, effectivement, quelques mots. Alors, mort il y a 230 ans, Charette continue d'incarner la résistance au totalitarisme.
Voilà.
Je crois que c'est quelque chose de fondamental dans le combat que vous menez.
C'est effectivement...
Vous n'aimez pas les idéologies.
On n'aime pas les idéologies. Vous parliez en fait d'incarnation et effectivement l'Église met toujours l'accent.
Vous êtes avant tout réaliste en politique.
Oui, parce que l'Église met l'accent sur la personne et que l'Église, comme on le dit, est experte en humanité. Et donc, voilà, on fait bien le lien entre les principes qu'elle pose et la façon dont on peut les appliquer en société. Et Charette, vous rappeliez, mort il y a 230 ans, c'est effectivement l'anniversaire de son exécution qui nous a fourni la matière de ce dossier-là et l'idée de consacrer donc un numéro aux martyrs des guerres de Vendée.
Alors, Philippe de Villiers répond à la question « Quelle sorte de chrétien était Charette ?»
Oui.
Et à cette question, il répond « La cause de Charette, c'est celle de la liberté de conscience, la liberté de sonner les cloches et d'emprunter à nouveau librement les chemins de la messe. »
Oui, je crois que c'est très bien résumé, toujours avec la plume de Philippe de Villiers, hein, sa façon... épique de dire les choses, mais effectivement, ça fait partie de ce que Benoît XVI a pu appeler en fait les points non négociables, c'est-à-dire la liberté de culte, la possibilité, voilà, tout simplement en fait d'exprimer sa foi, et c'est souvent d'ailleurs par là que commencent les totalitarismes, quand ils veulent asservir l'homme, ils commencent par fermer les églises, par dissoudre les congrégations, les expulser. Malheureusement, dans l'histoire de France, on en a eu en fait de nombreux exemples. Et il est vrai qu'on répète souvent que la Révolution française...
Mais on peut dire qu'actuellement même, si on reprend ces trois libertés fondamentales, on peut dire qu'elles sont en grave danger. Je pense à la liberté de conscience, si on réfléchit à la loi sur l'euthanasie,
elles sont
que vous abordez
menacées.
D'ailleurs dans les deux numéros.
Absolument.
Vous consacrez deux articles.
Oui, c'est vraiment en fait un dossier qui nous tient à cœur, mais tout naturellement, puisqu'il met en cause justement un principe fondamental qui est celui de l'interdit de tuer. Bon, on est en train, l'Assemblée nationale...
Pour les congrégations religieuses, ça va poser un énorme problème.
Et ça va poser d'énormes problèmes aux congrégations religieuses. On le sait peu, mais il y a en fait quand même énormément de congrégations qui sont encore hospitalières, qui sont engagées et qui gèrent qui gèrent des établissements de santé. Il y a des dizaines de milliers de lits qui sont occupés en fait par des malades, donc soignés dans l'esprit de l'Évangile en quelque sorte. Et il est certain que si la loi était votée et que si la liberté de conscience ou la clause de conscience,
la clause de conscience
n'était pas
pour
accordée,
l'avortement, qui existe encore,
n'était pas
pour
accordée, bon nombre en fait de ces congrégations se posent la question de continuer à exercer en France les soins qu'elles dispensent aujourd'hui. Et donc on perdrait par idéologie.
D'autant qu'il va y avoir un délit d'entrave.
Voilà, il y a
donc, non seulement il n'y a pas de clause de conscience, mais il y a un délit d'entrave.
Il y a un délit d'entrave. En revanche, certains députés ont essayé d'introduire par amendement un délit d'incitation qui, lui, a été refusé, rejeté. Donc on voit bien là qu'il y a deux poids, deux mesures, mais je reviens juste sur ces congrégations. Voilà, on risque par idéologie de perdre des dizaines de milliers de lits de soins, plus de 100 000 sans doute, uniquement parce qu'on aura voté cette loi et qu'on aura imposé à tous ces établissements de faire, au risque d'encourir justement des peines créées par ce délit d'entrave.
La liberté de sonner les cloches. La liberté de sonner les cloches, c'est la liberté du prosélytisme, enfin de religieux, c'est la liberté...
Ouais, c'est la liberté déjà, en fait, d'exercer en soi, en fait, sa propre religion. Et effectivement, on voit bien que c'est mis en péril à travers différentes dispositions. Bon, on a eu aussi la querelle sur les crèches. Enfin, on voit bien aujourd'hui que dans l'espace public, certains voudraient bannir la croix. Et donc, il faut être toujours très vigilant. C'est un combat. Et ce combat-là, on ne peut pas le mener si on n'est pas enraciné, justement, dans une foi nourrie par l'Église, nourrie par la réflexion, nourrie par la prière. Voilà, donc, il faut absolument
s'enraciner. La liberté d'emprunter à nouveau librement les chemins de messe, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a vécu au temps du Covid.
Oui, bien sûr, puisque là, on a fermé les églises, on
ne pouvait même pas
décontingentement
avoir accès à la sépulture religieuse d'une manière normale.
Exactement, et voilà, alors, président, en fait, a rappelé que nous étions en guerre hier, il nous disait que nous étions en guerre au moment du Covid, mais voilà, encore faut-il savoir mener une guerre avec discernement.
Alors évidemment, cet article de Philippe de Villiers se termine avec panache. Forcément.
Oui, comme... Non, mais encore une fois, il s'agit de Philippe de Villiers et il rappelle la façon dont est mort Charette. Voilà, donc en 1796.
Il porte la main sur son cœur où se trouve le scapulaire de flanelle du Sacré-Cœur. C'est d'ailleurs une constante que ce combat pour le Sacré-Cœur chez Charette et chez le général de Castelnau, en plus des catholiques de France en général, les catholiques les plus fervents. Ce ralliement autour de ce symbole vous paraît essentiel ?
Essentiel ? Oui, il est absolument essentiel. Bon, bah, c'est les apparitions du Christ à Marguerite Marie, à Paris le Monial, à la fin du XVIIe siècle. Et voilà, et le Christ a demandé en fait, que l'on répare nos péchés, que l'on adore en fait, ce Sacré-Cœur, qu'on le console et que l'on répare nos péchés. Et effectivement, c'est... uniquement en prenant conscience justement en fait des fautes que l'on a pu commettre, que l'on peut les corriger et que l'on peut aller de l'avant.
Et puis,
nous sommes en période de carême.
C'est mettre le cœur au cœur de la politique.
Et c'est mettre le cœur au cœur de la politique.
La rationalité révolutionnaire aboutissait au meurtre. Le cœur aboutit à la vie.
Oui, et le Sacré-Cœur. Hein, et le Sacré-Cœur. On le voit aussi avec le succès du film que lui a consacré Steven et Sabrina Guenel. On voit bien, en fait, que ce Sacré-Cœur, cette spiritualité, résonne encore fortement en France. Alors malheureusement, peut-être pas auprès des puissants, des dirigeants, mais en tout cas, dans le cœur du peuple, on voit bien cet attachement-là. Quoi.
Il porte la main sur son cœur où se trouve le scapulaire de flanelle du Sacré-Cœur. C'est là qu'on frappe un brave. Alors, de la tête, il fait signe, c'est fini. Ou plutôt, tout commence. Un enfant ramasse le panache, il le brandit, tout est sauf. Rien ne se perd jamais, monsieur.
Voilà, mais écoutez, là, on... Oui. On sent bien le lyrisme de Philippe de Villiers. Et encore, le succès de son Puy du Fou prouve combien il a raison et combien les Français sont attachés à cette histoire qui est intimement liée à celle de l'Église.
L'histoire de France. Évidemment, vous abordez aussi la question des guerres de Vendée à travers la biographie et surtout les actions un peu d'éclat d'autres chefs vendéens et des martyrs.
Des martyrs.
Des purs martyrs de la guerre de Vendée.
Et des martyrs, ils sont nombreux. Donc, l'un de nos reporters, Constantin de Vergennes, est allé sur les pas de ces martyrs, et notamment des martyrs d'Avrillier, qui ont été béatifiés par Jean-Paul II dans les années 80, me semble-t-il. Et voilà.
Un très beau dossier.
Merci. Oui. C'est un beau dossier, effectivement, où l'on perpétue et où l'on voit bien que. Ces paysans, puisque ce sont les paysans qui sont allés chercher leurs chefs de guerre. Hein, les nobles étaient un peu, non pas terrés, ce serait désobligeant, mais en tout cas restés dans leur château. Et ce sont les paysans qui sont allés les chercher pour leur demander en fait, de prendre leur tête, puisqu'ils savaient bien quand même que les nobles dans l'art militaire étaient meilleurs que les paysans ne pouvaient l'être. Et donc ils ont eux-mêmes... trouver la nécessité d'aller chercher des chefs et ces chefs ont accédé à leur demande. Mais c'est bien, j'allais dire, du tréfonds enfin, du peuple que vient le sursaut.
Alors citons évidemment Jacques Catelineau, Charles de Bonchamp, Maurice Delbé, Henri de La Roche-Jacquelin, Louis de Lescure, Jean-Nicolas Stofflet. Enfin bref, c'est tout un éventail de personnalités qui représentent différentes régions de France et on aurait pu en ajouter. Parce qu'il y a aussi une Vendée lyonnaise, une Vendée provençale, une Vendée franc-comtoise.
D'ailleurs. Bien sûr, et puis bon, nous n'avons pas évoqué en fait la chouannerie, mais c'est vrai en fait qu'on pourrait aller bien au-delà. Mais voilà, mais ce qui est toujours intéressant, par exemple, c'est de voir déjà en fait l'âge de ces hommes-là. Hein. Jacques Catelineau, surnommé le Saint de l'Anjou, il est mort à 24 ans. Louis de Lescure, qui lui était surnommé le Saint du Poitou, il est mort à 27 ans. C'était des hommes qui étaient très très jeunes. Alors je sais bien que là.
La Roche-Jacquelin, 21 ans.
Et La Roche-Jacquelin, 21 ans. Donc ce sont, La Roche-Jacquelin, si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi. Voilà, c'est ce qu'il déclare aux paysans qui viennent le chercher. Et il meurt à 21 ans. Donc c'était vraiment, en fait, des gens qui mettaient leur peau au bout de leurs idées. Voilà, ils ne craignaient pas de mourir pour leurs idées.
Alors vous citez deux grandes figures de prêtres. D'une part, celle de l'abbé Bernier, qui est mort dans son lit, lui, en 1806. Et un autre, le bienheureux Noël Pinault, qui, lui, a été fusillé dans des conditions...
L'abbé Bernier avait quelques habiletés. Hein. Il ne perdait pas le nord et donc il a su s'adapter un petit peu à toutes les époques, jusqu'à ce qui d'ailleurs était une bonne chose.
C'était un angevin.
Oui. Je ne sais pas en fait ce qu'il faut entendre par votre remarque, mais en tout cas, c'est lui qui a négocié également pour Napoléon le Concordat. Voilà, donc, il a été nommé évêque d'Orléans et il est mort en 1806.
Il faut quand même préciser qu'il a participé à la virée de Galerne, durant laquelle, il a été d'un grand secours pour les Vendéens.
Absolument, ouais. Il était très proche de Stofflet. Aussi, et voilà, donc il a... Enfin, c'était une tête très, très bien faite et qui, par des prêches assez enflammées, réussissait à soulever justement l'enthousiasme aussi des...
Alors l'abbé Pinault, bon, voilà. C'est, lui, c'est vraiment la grande figure du martyr.
Voilà, celui qui est monté à l'échafaud.
Il a refusé de prêter serment, évidemment, à la constitution civile du clergé.
Voilà, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, tous les prêtres ont été poursuivis. Lui avait été canonisé bien avant, en fait, les martyrs d'Avrillier, même s'il fait partie, justement, en fait, de ces hommes et femmes qui sont morts en haine de leur foi. Il avait été canonisé par Pie XI, déjà. Voilà.
Aujourd'hui, les jeunes s'approprient la mémoire de Noël Pinault, car ils voient bien qu'il est un modèle de persévérance dans la vocation. À sa suite, il s'agit de faire à fond son devoir d'État en donnant sa vie laïque comme consacrée.
Voilà, c'est ce que nous dit l'abbé Kevin Emmanuel Labbé. Faire son devoir d'État, sans aller forcément jusqu'au martyr. En tout cas, c'est ce que le Christ nous demande, d'accomplir notre devoir d'État où nous sommes et de façon très chrétienne.
Laïque autant que consacré.
Et laïque autant que consacré.
Je dirais que c'est le message politique de Noël Pinault.
Oui, c'est le message politique de
au sens le plus noble du terme.
Voilà, exactement. Oui. Et on peut effectivement prendre tous ces martyrs comme exemple. Pour nous guider dans la foi et dans l'action quotidienne, en quelque sorte.
Alors, rappelons que vous écoutez Radio Courtoisie et que Radio Courtoisie vit grâce à ses auditeurs. J'ai la joie d'inviter aujourd'hui Fabrice Madouas, qui nous entretient de deux numéros particuliers de France Catholique qui viennent de paraître. Alors, précisons qu'il est possible de s'abonner, évidemment, et qu'il est recommandé de s'abonner à France Catholique. En adressant un chèque de 45 euros, je crois.
55 euros.
55
euros pour 45 numéros.
Pour voilà. 45 numéros. Oui.
Voilà, donc on est hebdomadaire avec une petite coupure l'été et pendant les vacances
de Noël. Une revue tout en couleur et magnifiquement réalisée, dont on découvre pour le moment certains aspects. Et on va continuer notre exploration, bien entendu. Alors, à qui doit-on ? On peut, j'imagine, aller sur votre site internet.
Alors, on peut également s'abonner sur le site internet france-catholique.fr ou envoyer effectivement un chèque correspondant. Il y a dans chaque numéro.
Donc, de 55 euros.
55
au
euros.
21 rue de Varize.
21 rue de Varize, oui. 75016, Paris. Okay. Voilà, c'est l'adresse où vous pouvez envoyer vos chèques si vous souhaitez vous abonner. Et puis, donc, vous n'hésitez pas à consulter le site internet pour découvrir ce magazine si vous ne le connaissez pas déjà. Et voilà, on a des lecteurs très fidèles, dont le nombre d'ailleurs augmente, et on en est ravis. Et voilà, donc, on veut remercier tous ceux qui déjà nous font confiance pour justement cette fidélité. Et puis, on espère qu'il y en aura toujours plus, grâce à vous notamment.
Alors, cher Fabrice Madouas, je parlais de politique et de christianisme. Le dossier du numéro à paraître ce vendredi comporte donc un dossier élection dont l'introduction et le titre est constitué par le titre suivant d'un article, d'une étude, une boussole pour les politiques. Alors, vous voulez évoquer ce qu'est la doctrine sociale de l'Église.
La doctrine sociale de l'Église, justement, en fait, c'est cette boussole dont on aimerait que se saisissent tous ceux qui s'engagent en politique, parce qu'on voit bien, en fait, qu'aujourd'hui, il y a quand même des jeunes ou moins jeunes qui s'engagent et qui, notamment, s'engagent à droite et veulent défendre, en fait, des valeurs. En réaction, enfin, on l'a vu aussi depuis 2012, le mariage à l'occasion, enfin, du mariage pour tous. Là, vous avez cité
de toutes les lois sociétales qui ont suivi.
Vous
hein,
avez
la PMA,
cité
le...
absolument. C'est-à-dire que, juste une parenthèse sur la loi, sur le projet de loi sur l'euthanasie. On nous dit en fait que tout ça est très strictement encadré. Enfin, on voit bien, enfin, depuis le début, à chaque fois qu'il y a une loi dans le domaine bioéthique, dans le domaine social, on voit bien en fait que successivement tous les garde-fous ou tout ce que l'on a présenté comme des garde-fous pour faire voter en fait un principe, adopter un principe, volent en éclats.
Il faut reconnaître un certain courage au Sénat,
oui,
qui avait réellement retiré ce pseudo droit à mourir,
voilà,
de la loi, mais c'est-à-dire... qui évidemment s'est vu complètement contredit par l'Assemblée nationale.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Sénat a justement en fait imposé un acte fort, hein, un acte de refus, et l'on voit également qu'à l'Assemblée, le nombre de députés favorables diminue à chaque fois que le texte repasse, hein, puisqu'il y a plusieurs lectures, il y a eu plusieurs propositions de loi, et finalement le nombre de députés reste malheureusement majoritairement favorable, mais il y en a quand même de moins en moins, et on voit bien qu'à chaque fois que l'on évoque en fait ce sujet, que l'on met l'accent sur la gravité de ce sujet-là, il y a quand même de moins en moins de personnes qui y semblent favorables, en tout cas de plus en plus qui réfléchissent aux conséquences des décisions qu'ils peuvent prendre. Oui. Donc voilà, donc il faut vraiment continuer, il ne faut pas craindre de se mobiliser. On a une interview de Jean-Marie Le Ménet dans le prochain numéro, celui qui va sortir, et qui encourage,
qui dirige évidemment, la Fondation Jérôme Lejeune.
Voilà, qui dirige la Fondation Jérôme Lejeune, vous avez raison de la rappeler, et qui encourage tous les Français à écrire, à se mobiliser, écrire aux sénateurs, hein, puisque le texte va revenir devant le Sénat après, pour une deuxième lecture après les élections municipales. Voilà.
D'ailleurs, des démarches sont faites. Hein. Il y a une représentante des Petites Sœurs des Pauvres qui est allée d'ailleurs au Sénat
pour
essayer d'ouvrir les yeux à un certain nombre de sénateurs, mais également à l'Assemblée nationale. Elle est allée à l'Assemblée nationale et il y a quand même eu une trentaine de parlementaires qui ont changé d'avis.
Et elles sont très courageuses, hein, puisqu'il y a les Petites Sœurs des Pauvres, mais il y a d'autres congrégations qui sont engagées effectivement dans le soin. Et voilà, elles ont pris leur bâton de pèlerin, si j'ose dire. Elles sont allées. Voilà, ce qui veut dire, c'est pas une démarche habituelle, hein, quand même. Hein, il faut bien le mesurer.
Non.
Donc, ce qui veut dire quand même la gravité de l'enjeu et combien il est important pour elles et pour nous. Et pour nous et pour tous, d'essayer de convaincre les parlementaires de la gravité de leur acte et de l'impossibilité quand même de transgresser cet interdit de tuer. Philippe Juvin, qui est médecin et parlementaire, disait « Mais quand je revais en fait ma blouse blanche et que j'entre dans la chambre d'un patient, je ne peux pas admettre qu'il craigne que je vais le tuer. Ça n'est absolument pas possible. »
D'un côté, dans un poche, la piqûre qui donne la mort, et de l'autre côté,
on a interviewé il y a quelque temps un sénateur, Dominique Delage, qui a voté contre. Il dit « Mais on est en train de mettre en place une sorte de service public de la mort. » C'est-à-dire que dans un hôpital, il y aura deux couloirs et selon votre état et selon les finances de l'hôpital, hein, parce qu'il y a quand même des considérations financières derrière. Hein, c'est malheureux de penser ça, mais on a une conception désormais totalement utilitariste de l'homme. Et alors, on peut produire, on est utile à la société, on vous maintient en vie, vous ne produisez plus, vous êtes à la retraite, vous êtes malade, vous êtes pauvre, vous êtes handicapé, on va s'en débarrasser. Il y a vraiment une inspiration eugéniste derrière cette loi-là, et c'est aussi ce que nous dit Jean-Marie Le Ménet dans l'interview qu'il nous a accordée.
Vous avez, là je cherche en vain, mais ça n'a pas d'importance, je cherche les deux textes que vous avez donnés du pape Léon XIV. Alors, le pape Léon XIV qui, en tout cas, s'exprime en disant « Il n'y a pas d'un côté l'homme politique et de l'autre le chrétien ».
Voilà, c'est une déclaration qu'il a faite à des élus d'ailleurs du Val-de-Marne. Il y a une délégation en fait, d'élus français qui sont allés le 28 août 2025 le rencontrer et il leur a fait une catéchèse de l'action politique, si j'ose dire, et en disant « Voilà, on ne peut pas... sous prétexte de l'intérêt général ou sous prétexte de la laïcité ou sous prétexte que on ne peut imposer ses croyances aux uns etc. dire je suis chrétien mais en revanche ne pouvant pas imposer mes convictions à ce moment-là je vais voter en fait une loi qui est en contradiction avec la doctrine de l'Église et avec notre foi. Donc voilà, donc il
le
a eu
premier
des propos très très forts.
Le seul que je vous donnerai est celui de vous unir de plus en plus à Jésus, d'en vivre et d'en témoigner. Il n'y a pas de séparation dans la personnalité d'une personne publique. Il n'y a pas d'un côté l'homme politique, de l'autre le chrétien. Mais il y a l'homme politique qui, sous le regard de Dieu et de sa conscience, vit chrétiennement ses engagements et ses responsabilités. Et dans un autre texte que j'avais vu dans le numéro précédent, il avait dit à quel point il était impossible de vivre naturellement sans le surnaturel.
Voilà, absolument. C'est-à-dire,
ça m'avait frappé.
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le lien entre le naturel et le surnaturel, si l'on chasse le surnaturel, on chasse également le naturel.
Oui.
Et on laisse entrer le...
Chesterton.
Exactement. Et on laisse entrer, en fait, le mal, le mal dans la société et le mal en soi. Il y a vraiment, en fait, une
conjonction... C'est un arbre qui n'a plus de sève.
C'est un arbre qui n'a plus de sève. Et il y a vraiment, en fait, une conjonction entre le naturel et le surnaturel qui est évidente, mais qui a disparu aujourd'hui au nom d'une forme de rationalité mal comprise. Voilà. Et donc, il rappelle que l'on ne peut pas gouverner, même... Cicéron, en fait, qui ne connaissait pas le Christ, était un défenseur, en fait, de la loi naturelle également, quoi.
Oui.
Donc il faut...
Ah, les Grecs en général.
Voilà, oui, et les Grecs en général. Et donc il y a une loi naturelle qui est d'essence divine et que l'on ne peut pas nier sans aller vers le mal.
Dans le Décalogue.
Voilà, exactement, dans le Décalogue. Voilà.
Alors rappelons donc que Radio Courtoisie vit de vos dons et nous allons donc entendre le Bobino de Benoît.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Chers auditeurs et auditrices, nous retrouvons donc Fabrice Madouas et nous nous entretenions justement des propos du souverain pontife quant à cette nécessité de marcher sur ses deux jambes.
Hein ? Et il est très réaliste, il connaît bien le fonctionnement de la vie politique. Le pape Léon XIV, il dit dans cette...
J'ai bien conscience.
Oui, il dit « Je n'ignore pas non plus les pressions, les consignes des partis auxquelles les hommes politiques sont soumis, il leur faut du courage. » Voilà, et donc il leur faut du courage.
Il parle des colonisations idéologiques.
Voilà, ça c'était une expression en fait, du pape François d'ailleurs, de son prédécesseur.
Le courage de dire parfois « non, je ne peux pas » lorsque la vérité est en jeu. Là encore, seule l'union avec Jésus, Jésus crucifié, vous donnera ce courage de souffrir pour son nom. Il l'a dit à ses disciples « dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde ».
Voilà, on sait effectivement qu'au matin de Pâques, il aura triomphé de la mort.
C'est donc, un très beau discours. Qui nous renvoie un peu à ceux de Benoît XVI, vous ne trouvez pas ?
Oui.
Même de Jean-Paul II.
Oui, oui, non, mais il y a une continuité. Alors, il cite son prédécesseur également, mais bon, de toute manière, il y a une continuité dans l'enseignement de l'Église. Mais effectivement, il a un style très différent de celui de son prédécesseur, et il est beaucoup plus apaisé, il dit les choses effectivement de façon très calme. Il est rassurant. Voilà.
Oui.
On a l'impression, en fait, de réellement quelqu'un, en fait, qui sait où il va, qui ne fait pas d'esbrouf, ne sacrifie pas au rythme médiatique, et voilà, tout en maîtrisant quand même, justement, le.
Et qui n'est pas au théâtre, contrairement à certains hommes politiques.
Voilà, qui n'est pas au théâtre, non, ça n'est pas
un
théâtre.
Il ne joue pas au pape, il ne joue pas.
Non,
il est. La foi, il ne joue pas.
Je pense qu'il est tout à fait ajusté. Voilà, à son rôle. Comme on disait que Saint Joseph le Juste était ajusté à Dieu, je pense que lui, il est totalement.
Alors, la doctrine sociale de l'Église est une très vieille chose, puisque la charité politique de l'Église commence dès le Moyen-Âge.
Oui, bien sûr. Bon, on l'a formalisé, c'est Léon XIII, en fait, qui l'a formalisé dans son encyclique Rerum Novarum.
Avec les hospices, etc. Mais on peut dire que, comme vous le dites, elle a été véritablement... on peut dire, défendu par le magistère à travers l'encyclique consacrée à la révolution industrielle.
On peut dire qu'elle est,
ses conséquences.
Elle est consubstantielle, en fait, cette charité est consubstantielle à l'Église. Hein, c'est évident, on est en période de carême. Alors, dans le carême, il y a aussi il y a la prière, la pénitence, le partage et les œuvres. Hein, donc, cette charité-là... d'ailleurs, c'était Pion, je crois, qui disait que la politique est la forme la plus haute de la charité. Voilà, donc ce qui prouve bien, en fait, qu'il faut allier les deux. Mais cette charité, c'est pas simplement faire l'aumône ou distribuer, en fait, des soins. Cette charité, elle doit être ancrée dans le Christ.
La révolution industrielle a donné naissance à une situation inédite marquée par le prolétariat de masse et deux grandes idéologies, libéralisme et socialisme, qui s'éloignent toutes deux de l'ordre économique qui régnait dans l'Europe médiévale puis moderne.
Voilà, ça c'est Benoît Dumoulin, qui est le directeur d'Ictus, qui a été interrogé également par Constantin de Vergennes, qui était un peu sur tous les fronts. Je disais qu'il était sur les pas des martyrs d'Avrillier. Et là, il nous donne ce bel article sur la doctrine sociale de l'Église, qui fait un point très précis sur...
Et ils ont très à renvoyer dos à dos ces deux idéologies modernes.
Voilà, c'est ça. On pourrait y ajouter aujourd'hui le relativisme. Hein. Le libéralisme, parce que le libéralisme, en fait, ne considère que les intérêts de l'individu. Oui. Le socialisme, parce que...
C'est pas le libéralisme au sens de la liberté d'entreprendre.
Non, c'est pas la liberté d'entreprendre, non. Et de toute manière, l'Église défend le droit de propriété. Hein. Ça, c'est évident. C'est le libéralisme, en fait, dans ce qu'il a en fait, de plus réducteur, qui est de considérer que seuls les intérêts en fait, de l'individu doivent l'importer. On parlait de la Révolution, on a une mauvaise illustration, en fait, ou une illustration de ce mauvais libéralisme, qui est par exemple la loi Le Chapelier, qui dissout en fait les corporations et qui laisse l'ouvrier en fait seul face à l'État. Voilà. Et donc, le libéralisme est une forme de dissolution de la société par cet individualisme qui imprègne cette réflexion-là.
L'Église, le socialisme, c'est la société comme un corps.
Exactement.
Un corps, voilà. Et évidemment, un corps fonctionne de manière subsidiaire.
Voilà, et puis un corps est avec une tête également.
Une tête.
Voilà, c'est-à-dire que le socialisme ne conçoit peut-être que le corps et voudrait en fait
supprimer la tête.
En décapiter la tête.
Oui.
Mais voilà, donc là, le socialisme, c'est effectivement une conception erronée du corps social qui consiste à faire privilégier en fait le tout sur l'individu. Voilà, voilà, il faut naviguer entre ce libéralisme qui met l'accent sur l'individu et ce socialisme qui ne met l'accent en fait que sur la société, mais en bannissant le bien commun du gouvernement de la société.
Alors justement, l'antidote du bien commun, il y a un petit paragraphe, enfin un grand paragraphe qui dit consacré, et il est écrit dans ce paragraphe qu'il figure en tête des principes présentés par le compendium de l'Église catholique sur le sujet.
Voilà, qui résume les principes de cette doctrine sociale de l'Église, voilà, qui est l'enseignement de l'Église et du Christ.
Le bien commun n'est pas forcément l'intérêt général.
Le bien commun n'est pas l'intérêt général, et ça n'est pas non plus le vivre ensemble. L'intérêt général, c'est une conception en fait laïcisée, mais qui repose aujourd'hui sur l'expression de la majorité.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que voilà, il faudrait en fait que...
Et la juxtaposition d'individus.
Et la juxtaposition en fait d'individus 1 plus 1 plus 1, et on arrive à une conception tout à fait arithmétique de la société. Ça n'est pas du tout celle de l'Église. Et le bien commun, ça n'est pas non plus en fait le vivre ensemble qui consiste, et là aussi c'est Benoît Dumoulin qui nous dit ça, qui consiste à accepter de vivre avec quelqu'un qui n'a plus rien de commun avec soi.
C'est ça.
Voilà. Et,
sous le fait du communautarisme et de l'individualisme, le bien commun qui allait de soi auparavant n'a désormais plus de sens.
Donc on a glissé de l'intérêt général au vivre ensemble, et on a glissé, j'allais dire, des droits de la majorité, qui est déjà en fait une conception erronée de la politique et de la démocratie, on a glissé de la majorité au wokisme, en quelque sorte.
Oui.
Hein.
Oui.
Et là, c'est la multiplication des droits individuels ou des droits communautaires qui doit s'imposer
Il faut retrouver
à la volonté générale.
Le sens du bien commun. Puisque, comme l'écrit encore Benoît Dumoulin, c'est lui qui nous fait exister en tant qu'être civilisé, dépositaire d'une culture, et qui fait de nous des héritiers.
Voilà, c'est l'enracinement. Il y a toujours cette notion de transmission qui est là aussi consubstantielle à l'enseignement de l'Église.
C'est une forme de piété, d'ailleurs, vis-à-vis de ce que nous devons.
Oui.
À tous ceux qui nous ont précédés.
De piété filiale, voilà, nous sommes des héritiers, et si nous l'oublions, ne faisons surtout pas du passé table rase, comme la Révolution a voulu le faire, en inventant même un calendrier. Enfin voilà, on revient à la discussion sur la
Vendée. Au centre de tout cela, la famille.
Et
Dieu sait si la famille est traitée et défendue par France catholique.
Et la famille est défendue par France catholique.
Puisque France catholique s'adresse à tous les membres de la famille. Oui. On peut dire aux pères, aux mères et même aux enfants.
Oui, merci.
Puisqu'il y a le petit France catholique.
Merci, merci de le souligner. Il y a dans chaque numéro de France catholique quatre pages qui sont dédiées aux enfants, alors que, qu'évidemment, ils peuvent lire avec leurs parents.
C'est admirablement fait.
Bah, écoutez,
avec,
c'est
je sais que dans le prochain, c'est consacré à Sainte Françoise Romaine, notamment.
Voilà, et nous sommes la Saint-Casimir, et nous avons consacré notre Saint de la semaine dans ce petit France catholique, dans ce cahier de quatre pages, à Saint-Casimir, justement. Donc, si vous voulez savoir, en fait, qui est Saint-Casimir, n'hésitez pas à vous procurer ce numéro de France
catholique. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on fait réfléchir les enfants à partir de quelques paroles fortes d'un saint.
Il y a toujours une courte explication de l'évangile, hein, de l'évangile du dimanche qui suit, la bonne résolution que l'on doit prendre, un exemple fourni par la vie d'un saint, et puis tout ça agrémenté. En fait, il y a une recette de cuisine, une petite bande dessinée.
Donc on problème, c'est que figurez-vous que j'ai buté sur ce que vous appelez le mot de la foi. J'ai pas réussi à le trouver. Je me suis dit, c'était une sorte de rébus.
En fait, c'est un code.
Un peu buté.
C'est un code. C'est la cryptographie. Il faut littéralement le déchiffrer. Hein, c'est vrai. Oui. C'est vraiment ça.
Mais le problème, c'est que vous donnez pas la solution.
La solution est à la fin. Même quand vous butez, nous ne vous laissons pas en fait dans votre perplexité. total, voilà. Et je vous avoue que je n'ai pas fait en fait là le petit exercice en question.
Il y a la bonne résolution, bien évidemment. Il y a la prière. Voilà. Il y a la recette en plus de Juliette.
La recette, voilà. La recette, donc c'est là aussi, hein, on parlait de transmission, mais on a besoin de ces moments de vie familiale où. Voilà, les enfants peuvent faire cette recette avec leurs parents.
Et alors, grâce à vous, j'ai appris que Casimir est d'origine slave et signifie « celui qui apporte la paix ».
Voilà, mais écoutez... voilà,
dans ce programme.
Nous aurons une pensée pour lui, évidemment, ce jour, puisqu'on le fête le 4 mars.
Alors, pour en finir un peu avec ce dossier consacré à la doctrine sociale de l'Église... il y a donc un long passage concernant le problème épineux de la loi naturelle dont vous nous avez déjà un peu entretenu.
Oui. Cette loi naturelle, c'est la loi en fait qui est ancrée dans le cœur de chacun, parce que on sait quand même assez spontanément qu'il y a des interdits à ne pas transgresser si l'on veut aller en société et donc si on veut vivre en société et voilà, et donc la loi naturelle, le bien commun, la doctrine sociale de l'Église, tout ça est intimement lié. Et là aussi, c'est le génie de l'Église. On disait en fait qu'elle est experte en humanité, c'est de poser, de formaliser aussi en fait des principes qui relèvent de cette loi naturelle en l'éclairant par toute la pédagogie chrétienne du Christ. Quoi.
Et on peut même dire que c'est la perte du sens de la loi naturelle qui contribue à la destruction actuelle de toutes nos sociétés, et on peut même dire de l'Occident chrétien, de ce qui reste d'Occident chrétien.
Oui, bien sûr. Et là encore, c'est Benoît Dumoulin qui nous dit sur les questions de bioéthique, comme la GPA ou l'euthanasie, tout le monde est concerné, il faut retrouver le sens des principes qui valent pour tout le monde, ce qu'on a appelé pendant des siècles la loi naturelle. Voilà.
Voulez-vous dire un mot d'un speaker.
Ah
d'un speaker de Dieu.
Alors, oui, alors ici, il faut traduire le mot, mais il est anglais. Donc,
j'ai trouvé que là, vous étiez un peu audacieux de donner un tel titre. Thomas More, le speaker de Dieu.
Oui, speaker, tout simplement, parce qu'il a été élu speaker...
patron des journalistes, patron des...
Patron des hommes politiques.
Des hommes politiques
le patron des journalistes et Saint-François de Sales, le saint patron des journalistes.
D'accord.
Et Thomas More, lui, a été nommé, désigné comme saint patron des responsables politiques par Jean-Paul II.
On ne peut combattre l'arbitraire qu'en affirmant les droits de Dieu. C'est la leçon de saint Thomas More, patron des responsables politiques.
Alors, nous parlions tout à l'heure du bienheureux Noël Pinault.
Oui.
Lui aussi, Thomas More, est monté à l'échafaud, et ses paroles, c'était dans des circonstances très, très différentes. Hein, c'est, au moment où...
Vous êtes l'auteur de l'article.
Voilà. c'est au moment où Henri VIII veut séparer l'Église en Angleterre et créer en fait sa propre Église distincte de celle de Rome, dont il deviendrait le chef suprême. Et Thomas More s'y est opposé, et donc ça lui a valu d'être conduit à l'échafaud.
Le proche ami d'Henri.
Oui, oui, il a été...
Henri VIII qui avait rédigé 7 livres. Sept livres contre Luther ?
Alors, c'est lui, c'est Thomas More qui a rédigé...
C'est
Thomas More qui a rédigé 7 livres contre Luther.
Oui.
En revanche, sous la signature d'Henri VIII, en quelque sorte,
il y a une défense des sacrements.
Est paru une défense des 7 sacrements, et dont on pense que Thomas More est l'un des principaux rédacteurs. Donc, il y a eu effectivement une vraie proximité. Et puis, pour des raisons de politique, et emporté par un tempérament sans doute...
Par la passion...
Par la passion amoureuse. Aussi. Enfin, il y avait des raisons politiques. Henri VIII, sa première femme ne lui a pas donné d'enfant. Il veut un héritier mâle, un successeur, donc il demande à divorcer. Le pape lui refuse le divorce. Il veut épouser Anne Boleyn à l'époque. Et parce que le pape refuse le divorce en raison de l'indissolubilité des liens du mariage, Henri VIII décide de mettre la main sur l'Église d'Angleterre et finalement de faire une Église à sa main. Et ce que Thomas More, qui à l'époque est le conseiller du prince, il est rentré à son conseil, il est le Lord Chancelier, ce qui est la plus haute charge dans l'ordre politique à l'époque, Thomas More refuse cette rupture, et parce qu'il refuse cette rupture, il sera conduit à l'échafaud.
Alors, vous avez une approche que j'aime beaucoup du livre L'Utopie, parce qu'on parle beaucoup du livre L'Utopie comme étant un livre assez subversif.
Oui.
Et en réalité, j'aime énormément ce que vous en écrivez, et je vais le dire à nos auditeurs, parce que je dirais que vous arrivez vraiment à déceler l'âme de ce livre, qui n'est pas du tout un livre... d'utopiste, justement, d'idéologue, mais plutôt d'un homme véritablement de foi, puisque vous écrivez, dans le livre qu'il a écrit en 1516, Utopia, qui donnera le mot utopie, le juriste a théorisé une pratique du pouvoir qu'il s'efforcera de respecter jusqu'au martyr. Il y met en scène un marin portugais, Raphaël Itlodé, qui refuse catégoriquement d'entrer au service du roi. Pour lui, les souverains, obsédés par leur gloire, sont sourds au conseil de sagesse. On ne peut s'aventurer dans les ruelles du pouvoir sans se corrompre ou servir de caution morale à ses crimes ou à des crimes. À quoi Thomas More répond qu'on ne peut pas rester à quai au motif qu'on ne gouverne pas les vents qui poussent le navire. Il faut savoir agir par détour pour le guider vers le bien. Mais s'ils sont souvent nécessaires, les compromis politiques ne peuvent aller jusqu'à la corruption de l'âme. L'ordre politique reste soumis à la loi de Dieu qui garde les consciences droites, un pouvoir exigeant des citoyens qui y dérogent verserait dans la tyrannie à laquelle il faut résister.
Voilà.
Quel résumé.
Non, mais c'est une lecture. C'est vrai que souvent on retient de l'utopie quelques passage pour justifier telle doctrine, voir le communisme, on l'a présenté Thomas More comme...
Il avait été édité aux éditions sociales.
Et absolument, et de fait, le Parti communiste, parfois, s'est référé aussi, mais c'est en ne prenant réellement qu'une partie de son raisonnement. On essaie à France catholique de voir, le tout.
En rattachant ça, la Cité du Soleil. Là.
Voilà, mais on essaie de voir le tout, et le tout, c'est vraiment ça, c'est que en politique, il peut y avoir des compromis, mais on ne va pas jusqu'à la corruption, jusqu'à la compromission de l'âme. Et je voudrais dire quand même, citer ses derniers mots, l'un de ses derniers mots sur l'échafaud, il dit « Je fus fidèle serviteur du roi, mais je demeure avant tout celui de Dieu. » Donc voilà ce qu'il a dit en montant sur l'échafaud.
C'est un homme, j'aime beaucoup le mot « il faut savoir agir par détour pour guider vers le bien ».
Voilà, c'est... Oui, parfois, effectivement, il faut...
Ça revêt une certaine humilité et patience.
Oui, et puis...
De la part d'un politique chrétien.
On est dans le carême, on voit bien également, quand le Christ est au désert, Il y a une forme de vérité. Il affirme en fait cette vérité. Il s'est triomphé de toutes les tentations du diable, du démon, mais en répondant en fait de façon très habile également. Hein. Voilà. Donc il s'est décrypté en fait la ruse et il y répond en fait par la vérité, mais donc de façon directe, mais avec une certaine habileté aussi. Voilà. Donc
vous avez fait appel pour le carême à un prêtre que j'aime beaucoup.
Oui, le père Joël Guibert.
Le père Joël Guibert, et qui, on peut dire, médite chaque semaine de carême.
Qui nous donne chaque semaine, jusqu'à Pâques, une petite chronique de carême. Là, celle-ci, c'est « Menons le bon combat spirituel, quelques conseils pour triompher en fait, de nos faiblesses ». Et effectivement, le père Guibert a ce talent de partir de nos préoccupations quotidiennes également, pour nous élever et pour voir en fait comment on peut triompher de mauvaises habitudes ou de manquements à notre foi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très incarné. Je reviens en fait au mot que vous utilisiez. C'est vrai que voilà, le christianisme est une doctrine de l'incarnation. Hein. Voilà, sans le Christ, sans la rencontre avec le Christ,
vous parlez d'incarnation. Il se trouve que dans la rubrique culture, vous consacrez dans le prochain numéro donc de France Catholique un article à la figure de Gustave Thibon.
Voilà, la figure de Gustave Thibon, il y aura...
Paysan philosophe extraordinaire.
Paysan philosophe, exactement, qui est très, très enraciné, hein, oui. Lui aussi.
Qui Retour au réel était d'ailleurs le livre qu'il a, l'un de ses premiers livres.
Voilà, exactement. Et il y a un colloque qui lui sera consacré le 14 mars par Ictus, notamment, et nous sommes partenaires, France Catholique est partenaire de ce colloque qui aura lieu. Il faut se renseigner notamment au Prédictus pour pouvoir y assister, y participer. C'est le 14 mars.
Avec des conférences
Paris.
D'Emmanuel Gabellieri, Jacques Trémollet de Villers, Gérard Leclerc, qui est un de vos chroniqueurs.
Voilà, mais comme Jacques Trémollet également nous donne. Régulièrement des articles.
Frédéric Rouvillois,
voilà.
Évidemment.
Et Gérard et Jacques Trémollet de Villers ont bien connu Gustave Thibon, donc ils peuvent aussi rendre un témoignage très personnel de cette rencontre avec ce grand philosophe.
Est-ce
qui
que
était
vous
effectivement
voulez,
un philosophe enraciné.
Voulez-vous achever sur le magnifique extrait que consacre à Simone Veil, ce numéro ?
Oui. Alors c'est un article qui est paru parce que nous avons ouvert nos colonnes à Gustave Thibon assez souvent dans France Catholique. Et donc il avait consacré un article à Simone Veil, à sa rencontre avec Simone Veil, qu'on peut intituler Notre vraie patrie. Pardon. Alors si vous le souhaitez, je peux effectivement vous en lire quelques extraits.
Quelques extraits, voilà.
Nous sommes des exilés, des pèlerins en ce monde. Notre vraie patrie nous attend dans une dimension mystérieuse qui ne s'ouvrira qu'à la mort et à laquelle nous pouvons déjà participer ici-bas en mourant à nous-mêmes, c'est-à-dire par la destruction du moi, au sens pascalien du mot, ce parasite de l'âme, cette ombre projetée par le péché et l'erreur qui offusque la lumière de Dieu et que je prends pour un être. Je n'oublierai jamais avec quelle émotion j'ai retrouvé dans un des cahiers que Simone Veil m'avait confié la transcription de ces mots de Céline. La vérité est une agonie qui n'en finit pas, la vérité est du côté de la mort. Ce qui montre une fois de plus que les êtres les plus dissemblables partagent au sommet de leur pensée les mêmes illuminations dont la source est en Dieu et dans la partie divine de l'homme. On ne vit donc que pour mourir, j'imagine sans effort, la réaction de l'homme moderne, même chrétien, épris d'ouverture, d'épanouissement et de toutes les valeurs, qui se rattache à la foi en l'homme et au progrès contre cette spiritualité négative. Mais jamais Simone Veil n'a enseigné le mépris de la vie terrestre. Cette vie, pour elle, est une épreuve, un chemin, l'épreuve de l'éternel par le temps, un chemin mourant dans l'absolu. Or, un chemin n'a de sens et de valeur qu'en fonction du but où il conduit, et s'y installer, lui demander de tenir les promesses infinies qui ne se réalisent qu'à son terme, c'est le transformer en impasse. Alors, je pense qu'on peut dire finalement qu'on ne vit bien que parce qu'on sait mourir. C'est-à-dire, en fait, s'il n'y a pas non plus la perspective en fait, des fins dernières, c'est pour ça qu'il faut éclairer peut-être un petit peu ce texte-là, si notre vie n'est pas orientée en fait, justement vers le salut,
Et donc vers un au-delà de cette vie.
Et vers un au-delà. Et en fait, cette on peut regretter terrestre. D'ailleurs que l'Église parle assez peu désormais en fait des fins dernières.
Alors saint Augustin disait que l'homme était capable de Dieu. Mm-hmm. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la formule de Thibon qui disait souvent. L'homme est défini par le désir d'absolu.
Absolu, oui, c'est ça, mais...
Qui renvoie un petit peu à la même, on peut dire, à la même, au même côté surnaturel. Enfin,
oui, c'est ça, exactement.
À notre vocation.
Exactement, c'est-à-dire ôter le surnaturel et le naturel s'évanouit également, quoi. Oui. Et donc, il faut, tenir les deux.
L'homme est quelque chose qui doit être dépassé, disait Nietzsche. Mais...
Oui, non, mais c'est exactement ça. Après, la façon de savoir, en fait, comment
voilà,
on le dépasse,
et
par quoi on le dépasse. En tout cas, j'espère que nos lecteurs trouveront de quoi nourrir leur réflexion dans ce numéro-là.
Merci beaucoup, en tout cas, Fabrice Madouze.
Bah, merci, Benoît.
Nous parler finalement de ces très riches enseignements que le support des écrits qu'est France catholique communique, en tout cas, à tous ceux qui veulent bien s'abonner.
Voilà,
je voudrais que vous rappeliez justement.
La manière de s'abonner, donc France catholique hebdomadaire, 55 €, c'est le prix pour,
c'est
45,
le prix
pour 45 numéros, et donc on peut le faire en allant sur le site internet france-catholique.fr ou en envoyant le chèque avec la somme correspondante, donc 55 € à France catholique, 21 rue de Varize, 75 016 Paris.
Et si on se réclame de cette émission, eh bien j'aurai la joie d'envoyer gracieusement le numéro des 100 ans.
Bah écoutez, merci.
Voilà.
Merci Benoît pour toute cette publicité, heureuse publicité que vous nous faites. Et, voilà. Merci.
Merci beaucoup, Fabrice Madouze. Et dans 15 jours, tous nos éditeurs.
D'entendre au fil des pages dirigées par Benoît Mancheron, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 4 mars 2026 de 10h à 11h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.